Mon parcours a été d'abord en tant que jeune ingénieur employé pendant environ une quinzaine d'années dans des entreprises, puis ensuite comme dirigeant et chef d'entreprise pendant plus de 30 ans où j'ai dirigé des PME et racheté des PME de technologie qui travaillaient avec l'automobile. Certains, j'ai dirigé des groupes, donc mon parcours professionnel est un peu varié, multiple, mais enrichissant pour moi-même déjà, donc ce qui est important. Et tout en exerçant mon métier, nous avons, bien sûr, je me suis occupé de groupes de jeunes, fondé des églises, et puis dirigé, présidé des organisations nationales et internationales. Maintenant, je suis à la retraite, non pratiquant, depuis bientôt 18 ans. Hein. Donc voilà. J'ai pas arrêté à 60 ans, j'ai fait un petit peu. Je vais lire le premier texte qui servira aussi en même temps de conclusion tout à l'heure. C'est un verset dans le livre de Michée, le petit prophète Michée, et qui dit au chapitre 6 et au verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. » C'est que tu pratiques la justice, Michée chapitre 6, verset 8, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le parcours de chacun sur le monde professionnel est différent. L'âge, les origines, l'arrière-plan social et la catégorie socio-professionnelle constituent autant de cas particuliers. En France, j'y reviendrai, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est Michel 6, verset 8. En France, la durée du temps de travail, comme le nombre d'annuités à temps plein, permettant d'obtenir un droit à la retraite à temps plein, sont réglementées, donc régies par la loi. Normalement, 1607 heures, 42 annuités, en attendant que notre président nous prépare autre chose. Enfin, plus pour moi, en tout cas. Ainsi énoncé, si nous y ajoutons le temps de transport, nous avons l'impression de consacrer l'essentiel de notre vie au travail. C'est juste parce que nous y passons le meilleur de notre vie d'adulte en bonne santé. Mais c'est mathématiquement faux, puisque le temps de travail, transport cumulé sur 42 ans ne représente en fait pour une personne qui vivrait 80 ans qu'environ 12% de notre temps de passage ici-bas. Par contre, c'est près de 20% le temps que nous passons avec nos collègues, ou pas si nous sommes indépendants, donc en fonction du métier. Alors vous me direz, c'est important, 20%. Mais ça mérite aussi d'être relativisé. Le travail est prégnant, mais ne devrait pour le chrétien en aucun cas être le but ultime de son projet de vie. La question est donc, comment vivre ces 20%? Quelles sont mes motivations et quels en sont mes enjeux? Ce qui m'est apparu ces dernières années, bien que j'ai quitté le monde professionnel, je reste très actif dans différentes activités. Et par exemple, en tant qu'administrateur de la Fondation de l'Armée du Salut, nous avons 2800 salariés, donc c'est quand même quelque chose dont il faut s'occuper. C'est que la pression au travail, notamment psychologique, s'est accrue sur un plus grand nombre de salariés. Les causes sont multiples et les responsabilités sont diverses et sans doute partagées. Quelles qu'en soient les origines, je fais le constat d'une plus grande vulnérabilité et d'une fragilité de plus en plus grande chez beaucoup de personnes. Bien que pour la majorité, les conditions de travail se soient améliorées, le bien-être au travail est devenu une préoccupation des directions des ressources humaines, et le management par la bienveillance commence à être pris en compte. Aujourd'hui, et nous le voyons même dans notre propre famille, on assiste de plus en plus à des remises en cause individuelles des parcours professionnels. Nous avons un de nos petits-fils, Bac plus 5, droit, grand consultant senior dans un grand groupe international, Deloitte, qui, il y a 3 mois, nous annonce: je quitte ce groupe international pour faire quoi? Je vais faire une formation d'artisan boucher. Heureusement que nous avons un peu d'expérience de vie, qu'on sait aussi que Dieu dirige, mais ça pourrait être inquiétant pour des grands-parents, et alors je ne vous explique pas les parents. Et en fait, il rejoint, dans sa formation, il le fait en alternance, il rejoint deux gars de la finance internationale qui ont quitté et qui se sont mis à ouvrir une boucherie avec de luxe, dans le 16e, avec l'objectif d'en développer de bons produits pour ouvrir plusieurs boucheries. Et il va faire l'alternance avec moi. Donc ils ont le même parcours, des bacs plus 5, voire plus 7, et ils l'ont remis en question. Pourquoi cela? Mais on s'aperçoit que la quête de sens, aujourd'hui, apparaît comme le facteur déclenchant de cette prise de conscience. La réussite dans la vie n'est plus un moteur suffisant et réussir sa vie apparaît comme plus fondamental aujourd'hui. Le besoin de reconnaissance qui se caractérisait par une promotion a cessé d'être un attrait et le désir de se sentir utile s'est révélé être une exigence bien plus essentielle. Chrétiens, nous n'échappons pas à ce questionnement et d'une certaine manière, nous avons essayé, tenté d'y répondre en nous orientant en tant que chrétiens vers des métiers, ce que nous appelons à forte dimension humaine, le social, le médical, l'éducation, et ce, malheureusement, au détriment d'autres professions qui nous semblent plus difficilement compatibles avec notre témoignage. Est-ce juste? Je me souviens que lorsque je me suis converti, celui qui était mon père spirituel, Alfred Kuhn, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, écoute, comment puis-je rencontrer quelqu'un qui est dans les affaires et qui peut m'expliquer comment on se comporte en tant que chrétien dans les affaires? Et il m'a dit, j'ai un ami, il est industriel à Bruxelles, tu peux aller le voir. Je suis sauté dans le premier intercity, parce que c'était ça à l'époque, et je suis allé le voir. Et alors j'ai commencé par lui dire, écoutez, voilà, je voudrais savoir, il m'a dit, ah oh, attends. Tu t'assois, on va se connaître, et puis on va discuter. Et ce que je retire de notre enseignement ensuite qui m'a servi toute ma carrière, m'a dit, écoute, je n'ai qu'un conseil, c'est que quand tu traites une affaire, en tant que, si tu dis à Jésus, écoute, tu restes dans la salle d'attente parce que moi je vais traiter mes affaires, t'as tout perdu. S'il ne peut pas rentrer avec toi, sache que t'es pas dans la bonne direction. Alors, voilà, je suis parti avec ça. Et donc, j'ai largement expérimenté que cela était vrai. Mon objectif ce matin n'est pas de vous faire un exposé théologique ou sociologique sur le travail, ni sur l'éthique du chrétien dans le milieu professionnel, c'est d'autres sujets. Mais de manière pratique, comment assumer mon témoignage dans mon activité professionnelle au quotidien? Donc ce n'est donc pas du prêt-à-porter que je vous offre ce matin. Il sera nécessaire de faire des retouches, peut-être de la demi-mesure et parfois du sur-mesure. Nous n'avons pas un catéchisme à réciter, nous n'avons pas une vitrine à offrir. En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler qu'à l'origine, tout était bon et que malgré la chute en Éden, le travail est toujours considéré par Dieu comme une composante qui contribue au bien-être de sa créature. Il n'est pas devenu malédiction le travail. Ce sont les conditions, c'est-à-dire la pénibilité, qui ont changé. Il y a désormais une souffrance à affronter. C'est ce que nous dit le texte de la Genèse au chapitre 3. Le travail reste dans le projet bienveillant d'un Dieu qui nous aime et qui veut notre épanouissement. Le travail fait partie du mandat créationnel. Dieu l'a institué. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dans cette intention originelle, cultiver et garder, Dieu donne deux principes, transformer pour améliorer et prendre soin pour conserver, participant et gérant. C'est le principe créationnel du travail. Nous sommes donc appelés à le vivre en responsabilité comme un service à destination de tous les hommes, afin que ceux-ci soient bénis, tous les hommes, chrétiens ou pas, tous les hommes, et que Dieu soit glorifié parmi tous les hommes. Dans cette perspective, le travail ne fait sens que pour autant qu'il ait une finalité qui ne soit pas auto-centrée. Il y a une œuvre à accomplir dont le bénéfice doit être collectif. Alors, puisque le travail est dans le plan originel de Dieu, faut-il le considérer comme un appel particulier ? Je ne le crois pas. Par contre, notre choix professionnel peut lui faire l'objet d'un appel particulier, d'une orientation voulue par Dieu. À ce sujet, il me semble utile de préciser que dans cette perspective, Dieu m'appelle à faire telle ou telle profession, dans la finance, dans le business, pas obligatoirement dans l'éducation ou le médical, eh bien, Dieu ne me conduira pas dans des voies qui seraient en complète dissonance avec ma personnalité, la personnalité dont il m'a adopté, ni même avec les capacités dont il m'a équipé. Dieu est cohérent dans la manière dont il nous dirige. Le choix professionnel et les conséquences induites fait partie des trois décisions importantes que nous pouvons être amenés à prendre dans une vie. La première est notre décision pour ou contre Jésus. C'est notre conversion. Elle est fondamentale parce qu'elle conditionne non seulement toute notre vie, mais elle conditionne notre éternité. Donc elle est fondamentale. La seconde concerne le choix du conjoint. Il peut y avoir des exceptions, comme le célibat, mais c'est en général une deuxième décision importante. Et la troisième décision importante, c'est ma contribution à la société par mon activité, par mon travail. Avec une petite nuance, les deux premières devraient être considérées comme définitives, alors que la troisième peut toujours faire l'objet de réorientation, d'abandon, pour répondre à une attente de Dieu, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. On peut être appelé à plein temps, par exemple. Mais il faut savoir où Dieu nous veut. Et j'ai le souvenir à ce sujet, alors que nous étions responsables aussi à Paris Nation, de la jeunesse, et un jour, un homme de Dieu vient me voir, de Dieu qui était vraiment, vous savez, ces statures qu'on reconnaît comme des gens qui, quand ils parlent, ces paroles d'évangile presque. Et il me dit, sais-tu que nous pensons à toi comme serviteur à plein temps à Montluçon ? Oh, le Parisien que j'étais, Montluçon, sur le coup, on est rentré avec ma femme, je dis, je vois à peu près où c'est, mais j'aimerais bien voir quand même. Alors bon, ben, nous sommes mis devant Dieu. Alors, il y avait un tas d'événements, je ne raconte pas là, mais qui auraient pu dire, c'est la voie qu'il faut que tu choisisses. Si, maintenant, tu as un appel certain de Dieu. Et puis, après avoir prié, après avoir j'ai revu ce serviteur de Dieu et je lui ai dit, écoute, je ne pense pas que ce soit la voie dans laquelle Dieu me demande. Je pense que Dieu veut que je reste un témoin laïque engagé dans ma profession. Et donc, je n'ai pas répondu à cet appel qui était lancé, mais je crois que j'ai répondu par contre à l'appel que Dieu m'avait proposé. Ceci dit, et pour entrer dans le cœur de notre sujet, il ne faut pas occulter que ce qui constitue chez les chrétiens évangéliques dit professant, un malaise ou une forme de culpabilité, c'est tout ce qui concerne notre témoignage au travail. Nous avons dans nos églises été très sensibilisés, pour ne pas dire exhortés, sur l'importance du dire, annoncer la parole, voire de manière offensive, prenant le conseil de Paul à Timothée dans sa deuxième lettre, au chapitre 4 et au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, oubliant parfois le contexte et surtout la fin du verset avec douceur et en instruisant. Et parfois, nous avons fait fi dans notre attitude de simple bon sens. Nous avons voulu annoncer la parole parce qu'il fallait l'annoncer. Or, un homme est un guide, c'est Daniel. Dans son livre, quand il doit approcher Arjok, le chef des gardes de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il nous est dit que Daniel le fit d'une manière prudente et sensée. Prudente et sensée. Ce qui est évident, c'est que cette forme de témoignage agressive, de vouloir annoncer à tout prix la parole, n'est culturellement pas adapté au contexte du milieu socio-professionnel. Il peut de plus être en infraction avec les conditions d'exercice du métier, le secteur public ou le droit de réserve est la norme. Faut-il pour autant, en tant que chrétien, se considérer en situation d'échec ou faut-il repenser notre manière d'être chrétien? Ne pas imaginer que le seul dire peut constituer témoignage, mais que le faire ou l'être peuvent souvent parler bien plus fort que le dire. Je vais vous lire une petite histoire dans le premier livre que j'ai fait, où je raconte une expérience. Alors, lors d'un entretien informel avec l'un de mes collaborateurs, j'ai eu l'occasion de lui dire « j'étais chrétien ». Saisissant la balle au bond, il m'avait demandé comment je pouvais mettre en pratique ma foi et faire des affaires. J'étais sous supérieur hiérarchie. La question que je m'étais posée plusieurs années auparavant de ma conversion, comme je vous l'ai expliqué, je connaissais toutes les objections. Je savais exactement quoi répondre. Mais je l'ai averti que je ne lui répondrais pas à sa question. Mais que, puisque nous aurions l'occasion de voyager ensemble, et qu'il n'avait qu'à regarder la manière dont je travaillais. Alors je dois vous avouer, il ne s'est pas marqué dans le livre, mais je dois vous avouer que, quand je l'ai dit, après, je me suis dit, ouf! Tu t'es engagé, là. Oui, en rentrant, effectivement, j'ai pris conscience que c'était peut-être osé, et que même peut-être j'avais été présomptueux. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible, il allait falloir assurer. Je n'ai plus abordé le sujet et je m'en suis même gardé. Au bout de quelques mois, il est revenu vers moi, me demandant si je me souvenais de la question qu'il m'avait posée et de la réponse que je lui avais donnée. Avec un peu d'appréhension, je lui ai affirmé que je n'avais pas oublié. J'étais déjà prêt à me justifier quand il me dirait, quand il me dit, savez-vous que vous avez bien fait de ne pas répondre à ma question en me donnant vos arguments? Je m'attendais au pire. En effet, poursuit-il, il y a quelques années, j'ai monté une entreprise avec mon meilleur ami. Il se déclarait chrétien. En peu de temps, il m'a mené à la faillite, il a pris ma femme, et m'a laissé sans rien. Depuis, les chrétiens, je veux les voir vivre. Chrétien, comprendre la mission du chrétien. Je vais vous proposer trois axes de l'action. Nous sommes chrétiens et nous devons être vrais. N'adoptons pas des discours ou des attitudes dites chrétiennes. Nous vivons et nous devons essayer de vivre en reflétant le Christ dans le service que nous offrons, dans les relations que nous tissons, dans les propos que nous tenons et dans les actions que nous accomplissons. Gardons-nous de la pensée de catégoriser en considérant que le monde a tout faux et que nous serions les seuls à détenir la vérité ou à faire les choses avec justesse. Je me suis trouvé qu'il y a quelques années, j'en ai fait beaucoup après, comme orateur d'un dîner d'hommes d'affaires. Et c'était le Lions Club de Charleroi qui réunissait une soixantaine de chefs d'entreprise et qui m'avait demandé de venir rendre témoignage de ma foi en tant que chef d'entreprise. C'était pas des chrétiens, hein, c'est le Lions Club est quand même humanitaire. Et donc j'ai fait l'exposé que j'avais à faire. Et à la fin de cet exposé, de ce repas exposé, l'un des sommités de ce repas qui était connu pour être incisif et toujours critique, me dit mais c'est très bien ce que vous venez d'exposer, mais moi je ne suis pas chrétien et je fais exactement la même chose. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vous ai pas dit que parce que j'étais chrétien, je faisais mieux que vous. Je vous dis simplement maintenant, il vous manque de devenir chrétien. Et nous avons gardé des relations plus tard, comme ça. Donc, ne pensons pas que le monde, c'est les ténèbres qui sont incapables de savoir la vérité ou de faire le bien. Premier axe de réflexion que je voudrais vous livrer, c'est que le monde du travail est un terrain missionnaire exigeant. Un chrétien travaillant dans une entreprise informatique en Asie, expliquant son parcours, terminait son propos ainsi. Ma profession est mon ministère, et mon ministère est ma profession. Quelles que soient les circonstances, professionnelles ou toute autre nature, notre foi ne nous protège pas de manière magique. Elle nous aide simplement à mettre notre confiance en celui qui connaît toutes les situations. Le monde du travail est un terrain missionnaire exigeant. Le témoignage s'y exerce plus par des actes que par des paroles. Notre manière de vivre, nos pensées, notre approche des situations difficiles, notre implication dans l'action doivent être visiblement différents. Ils ne sont pas immédiatement identifiables. Les gens ne comprennent pas pourquoi on fait peut-être telle chose. Ils ne suscitent pas automatiquement l'adhésion. On pourrait penser que enfin, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est bien puisqu'on est chrétien. Mais notre attitude devrait faire naître de l'intérêt et de la curiosité. Le regard de l'autre, collègue, supérieur ou subordonné, est sans complaisance. Conscient ou non, nous sommes en permanence exposés. Encore un petit témoignage, je terminais ma carrière professionnelle, j'avais revendu l'entreprise que j'avais en dernier lieu, et donc je partais à la retraite. Puis on m'a demandé, pour donner un coup de main, de venir prendre la présidence d'une société dans le Midi. J'ai accepté pour différentes raisons, et donc je ne connaissais personne dans cette entreprise, elle faisait 150 salariés, je ne connaissais personne. Et lorsque j'ai pris les fonctions, je vois le directeur de la recherche et développement qui vient dans mon bureau et qui me dit « Vous êtes monsieur Poulbourgeois ?» Oui, pas de mystère là-dessus. Il me tend un article de presse en disant « Un chef d'entreprise au pied du Christ, c'est bien vous ?» J'ai dit « C'est bien moi. » Et ce qu'il dit, ce qui est écrit dedans, je ne le relis pas et j'essaye de le vivre. Malgré tout, c'est quelque chose qui a été à un moment... Oui, j'ai essayé de le vivre. Mais c'est quelqu'un dont j'ai dû me séparer et licencier le directeur de la recherche et du développement. Mais aussi, là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à savoir, même en tant que chrétien, parfois procéder à des licenciements. Sans état d'âme, mais avec beaucoup de cas de conscience. Mais nous sommes là pour un travail pour le bien collectif. Si nous considérons notre situation professionnelle et notre témoignage dans le milieu professionnel comme un fardeau, confions-le à Christ. Confions-le à Christ. Parce que cependant, tout n'est pas négatif. La sphère professionnelle, c'est un espace dans lequel on tisse des amitiés, même avec des non-chrétiens, mais oui, et aussi des inimitiés. Et il faut savoir les accepter. Et il ne faut pas s'en meurtrir pour autant. On construit les réseaux où se côtoient le meilleur et le pire. Dans le milieu socio-professionnel, vivre le sermon sur la montagne, dont nous avons eu une lecture en introduction ce matin, hein, nous oblige à la vigilance, nous oblige au courage, mais nous oblige aussi à l'humilité. Il impose, ce sermon sur la montagne, un regard qui se distancie du monde sans s'en exclure, qui impose un comportement qui se différencie sans porter de jugement. Vivre avec nos forces et nos faiblesses, avec nos certitudes et nos doutes, avec nos réussites et nos échecs, j'ai d'ailleurs écrit un livre sur les échecs, nous invite à demeurer dépendants de Dieu. Il ne faut à aucun moment chercher à vivre en chrétien, mais à être chrétien. À être chrétien. Si je cherche à vivre en chrétien, je vais à un moment me prendre les pieds dans le tapis et ça va faire mal pour mon orgueil. Les obstacles à surmonter dans le travail ne sont pas de nature théologique. Même s'il y a des problèmes éthiques et relationnels, comme la compétition, la jalousie, l'animosité, les conflits d'intérêts, les ambitions, le carriérisme, on est confronté à ça. Il faut toujours se dire qu'un bon collègue n'est pas forcément un bon ami. Et que vivre 1 Corinthiens 13, comme on nous y exhorte dans nos églises, l'amour au sens fort, est encore moins facile au travail qu'à l'église. C'est déjà pas facile à l'église. Au travail, si nous sommes dans le travail, si nous ne sommes pas dans le transculturel, tel que nous comprenons quand nous parlons de terrain missionnaire, nous devons néanmoins nous souvenir que pour chaque entreprise, il va falloir appréhender sa culture, décrypter ses éléments de langage, assimiler ses codes. Ce n'est donc pas le fond qui change dans le milieu professionnel, mais la manière d'habiter mon rôle en tant que chrétien et de le partager pour accueillir la différence. J'ai fait multiples entreprises et j'ai eu des collaborateurs Et chaque fois, j'ai dû réapprendre et me laisser interroger. Deuxième axe de réflexion, je voudrais dire. Il faut accepter de vivre des tensions. Il ressent donc que nous allons être amenés à vivre et que nous allons devoir apprendre à accepter que, dans le milieu socio-professionnel, par rapport à ma foi, des tensions apparaissent. C'est normal, puisque nous avons deux conditions. Comme dit Jésus dans sa prière en Jean 17, ils sont dans ce monde, mais ne sont pas de ça. Et donc nous avons la tension, deux tensions de conditions terrestres. Citoyens des cieux et citoyens de la terre. Notre statut d'homme et de femme régénéré nous conduit à agir et à témoigner dans un monde qui, dans la grande majorité, exclut Dieu de son univers de pensée et d'action. C'est clair. Nous vivons donc dans cette société en fraternité humaine, au milieu de nos contemporains. Nous avons la tête au ciel, mais les pieds sur terre. Il nous faut donc apprendre à composer avec des lois qui m'obligent et une foi qui m'impose. C'est là que se font les tensions, entre les lois qui m'obligent et une foi qui m'impose. Si je prends conscience de cette réalité, et si je ne la fuis pas, je vais devoir en permanence faire face, d'un côté, assumer ma solidarité avec mon prochain, créature de Dieu au même titre que moi, même si c'est le dernier des païens, c'est une créature de Dieu. Et d'autre part, ne pas perdre de vue que je dois, en tant que chrétien, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et chaque fois, dans chaque situation, je dois être amené à préférer Dieu, autorité suprême et premier servi, à Mammon, séducteur insatiable et tyran redoutable. Ces tensions, je ne vais pouvoir les affronter et les surmonter que dans la mesure où j'ai une juste compréhension des Écritures. C'est pour ça qu'il est important de lire, méditer et étudier la Bible, pour avoir une juste compréhension des Écritures. On ne peut pas plaquer un verset comme ça, ou essayer de dire « ce verset c'est ça ». Il y a des distances à prendre, des positions à adopter. C'est ce qui va me permettre de discerner la voie que je dois emprunter. Dans certaines circonstances, nous serons appelés à nous prononcer pour la solution du moindre mal. Entre le bien et le mal, parfois, il n'y a pas, on ne voit pas la solution du moindre mal. C'est une solution dont on parle bien souvent quand il s'agit des élections, où on peut être, chacun avoir sa pensée, sa tendance, son affinité, mais un jour, il faut quand même mettre un bulletin pour une seule personne. Et si on ne pense pas comme lui, c'est la solution du, peut-être du moindre mal. On ne le sait qu'après, de toute façon. Mais on le fait devant Dieu. À ce stade, il ne sera pas utile de nous poser la question comment on va procéder face à cette situation du moindre mal. Mais nous poser la question, quelle est la finalité que je veux atteindre? En faisant ça, quelle est la finalité en tant que chrétien que je veux atteindre? La règle en la matière est d'adopter toujours des moyens en accord avec la fin et non pas le principe que la fin justifie les moyens. Nous devons avoir présent à l'esprit que dans le milieu socio-professionnel, il ne s'agit pas de défendre notre foi. Nous ne sommes pas là pour défendre notre foi, mais nous sommes là pour vivre notre foi en cohérence, de manière sereine, en veillant à ne pas aliéner notre liberté de chrétien. En d'autres termes, il convient de s'assurer que ce que l'on veut et que l'on peut exercer son métier en accord avec sa conscience. C'est un enjeu majeur, mais c'est une prise de risque possible. Jeune chrétien, je me souviens de cette expérience. J'étais ingénieur à l'époque et président de notre société. Vous savez, les politiques, de temps en temps, ils font des lois qui permettent d'arranger leurs affaires. Et là, ils avaient fait une loi qui n'était pas rétroactive. Comme quoi, tous les industriels qui passaient un investissement pouvaient récupérer leur TVA si elle avait été faite de telle période à telle période. Alors, c'est comme, vous savez, c'est comme tous les, toujours, il y a le gars qui a, mince, qui avait réglé sa commande juste avant que se passe la loi, qui dit « Ah bah ouais, mais alors pourquoi moi j'y ai pas droit ?» Donc, il vient me voir, ce client, il me dit, bah, écoutez, c'est pas très juste, est-ce que vous pourriez pas me refaire les factures de telle manière qu'on arrange tout ça? Alors, je lui ai pas dit, ah, non, je suis pas d'accord avec ma conscience. C'était pas ma responsabilité de dire ça. Je lui ai dit, écoutez, la loi, c'est la loi. Mais, moi, je suis pas décisionnaire, je vais en parler à mon président. Il est libre, hein, il était bon chrétien, il est libre. Je suis allé là, et je lui dis, bah, voilà, c'est ce qui se passe. Ouais, mais là, si tu fais, hein. Alors, je lui dis, ok, je peux comprendre. Mais si ça vous dérange pas, vous me déchargez du dossier, vous confiez à un autre de mes collègues, parce que moi, je me sens pas à l'aise. Eh ben, vous croyez, ou non? Eh ben, il a respecté ma décision. Il m'a dit d'accord. Donc, parfois, vous savez, les non-chrétiens ont des attitudes qui nous étonnent aussi et qui, parfois, sont peut-être meilleures que nos attitudes. Donc, il faut savoir prendre le risque. Vous pouvez prendre le risque de me dire, tu fais. Si t'es pas content, bah, écoute, hein, la porte est grande, tu t'en vas. Dans un monde dominé par le mensonge, la cupidité, l'individualisme et la satisfaction immédiate de tous les désirs, notre liberté nous impose de vivre dans la vérité. Et quand je dis une vérité, il ne s'agit pas de céder au diktat de la transparence, très à la mode chez nos censeurs des milieux dits bien pensants. Il faut être transparent. Enfin, il faut que les autres soient transparents. Non. Vivre vrai, c'est vivre de telle manière à ne pas gâcher ou dévaluer notre témoignage par des comportements ou des paroles qui n'honorent pas Dieu. C'est ça. Et si cela arrivait, et je peux vous dire, ma femme pourrait en témoigner que ça m'arrive encore souvent, si cela arrivait, savoir reconnaître et si nécessaire demander pardon serait en accord avec l'expression savoir demander pardon, même à un collègue. Troisième axe de réflexion, réinterroger nos motivations et nos priorités. Si travailler nous apparaît comme une évidence et une nécessité et même une composante incontournable de notre parcours humain, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit que d'un temps, certes important, mais qui ne doit en aucun cas être considéré comme le but ultime de notre existence. La question qui revient est donc, quel sens entendons-nous donner à notre vie? Quel sens entendons-nous à notre vie? De la réponse découle une mise en cohérence de nos choix et une obligation d'interroger nos motivations. Par quoi nos motivations sont-elles? À quelle vocation suis-je appelé? Il ne faudrait surtout pas que de mauvaises raisons ou un manque de recul ne viennent hypothéquer ou préempter les décisions qui vont influencer nos futurs. Les changements qui peuvent s'imposer à nous tout au long de notre parcours professionnel peuvent nous conduire à une confirmation ou une réaffirmation de nos priorités. Rien n'est jamais fait. Il nous faut, sans pour autant quitter le cap, être prêt à procéder à de nécessaires ajustements, à assumer des décisions courageuses. Entre confort et risque, s'offrira toujours le choix d'appartenir au groupe de ce que j'appelle les spectateurs critiques qui choisissent le confort, ou à celui des acteurs engagés qui prennent le risque. Il ne s'agit pas de savoir si l'option que je pose me satisfait, mais si l'option que je pose est dans le plan de Dieu pour moi, ce qui est différent. Le prophète Amos, au chapitre 7, n'a pas cédé aux injonctions du prêtre de Bethel qui l'invitait à ne pas prophétiser dans la maison du roi, parce que ça dérangeait le roi, et à fuir pour aller manger son pain ailleurs. Amos a choisi la voie que Dieu lui imposait. Quelles que soient les voies que Dieu, en la matière, nous demandera d'emprunter, elles ne sont pas obligatoirement en accord avec les nôtres, c'est certain. C'est même parfois sûr, mais elles seront toujours de ces voies, celles qui recherchent notre bien, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, qu'on aime bien laisser aux autres, Dieu donne... Ah, le verset m'échappe. Concourt au bien de ceux qui aiment. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Ça, c'est quelque chose que nous aimons dire aux autres, pour les encourager, quand ils ne se voient pas clair. Dans notre démarche, il sera bon, et c'est là où nous arrivons à la fin, de nous souvenir les paroles que j'ai lues au début. Celles de Miché. Celles que Miché adressa à Israël et à Juda et que personnellement m'ont servi de guide dans tout l'exercice de mon management. C'est que l'Éternel attend de toi, je vous le dis dans une autre version, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. C'est ainsi notre attitude de chrétien dans notre mission au travail. En tant que chrétien, on peut demander des conseils, on peut s'informer, on peut réfléchir, on peut examiner objectivement les plus ou les moins d'un choix. Il ne faut surtout pas s'en prendre. Il ne faut jamais foncer tête basse. Parce qu'en face, il peut y avoir un mur. Nous avons le droit à l'erreur. Nous n'avons peut-être pas le droit de la recommencer. Il faut simplement nous assurer que toute décision puisse être prise dans la prière. Regarde Dieu. C'est tout. C'est pas le plus facile. Voilà, j'ai terminé pour moi ce matin. Et je vous laisse avec toutes ces questions et toutes ces interrogations que vous pouvez peut-être avoir. Maintenant, je crois que si vous avez des questions, vous avez l'habitude d'être libre, à moins que l'horaire.
Oh, j'ai quelques questions. Le fait de brasser beaucoup d'argent, de voir beaucoup d'argent passer, est-ce que ça influence? Est-ce que c'est pas un truc qui peut éloigner de Dieu, qui peut faire perdre les pédales un peu? Est-ce que. Comment tu as vécu ça, toi, en tant que quelqu'un qui connaissait ce milieu, où il y a beaucoup d'argent qui circule?
Oui, vous savez, il n'y a pas besoin d'être chrétien, ou il y a des gens du monde qui ne sont pas influencés par l'argent ou qui embrassent beaucoup. Hein. Donc, je crois que c'est comme en toute chose, il faut avoir une juste relation avec ce qu'on appelle les ressources, tout simplement. Donc, si on prend une décision pour gagner de l'argent, moi, je n'ai jamais pris mes décisions en entrepreneuriat pour gagner de l'argent. J'ai fait des axes stratégiques pour l'entreprise pour qu'elle en gagne, bien sûr, pour pouvoir subvenir aux besoins, au développement, aux salariés et un ensemble de choses. Mais j'ai jamais travaillé pour dire il faut travailler pour faire de l'argent. Au point que je vais vous livrer quand même une chose que je crois n'avoir jamais dit d'ailleurs. C'est que quand j'étais salarié, mais parfois j'étais aussi un peu excessif comme chrétien, un peu étroit, là, hein, je me suis dit, on doit apprendre à compter sur Dieu. Et donc, si tu veux compter sur Dieu, tu ne demanderas jamais une augmentation de salaire, même si tu la mérites. Alors je me suis tenu, hein, mais oui, j'ai vu que Dieu répondait. Je n'ai pas pour autant quitté, alors qu'on m'a proposé parfois des situations beaucoup mieux payées que celles que j'étais. Je me souviens d'un cas, toujours avec ce patron avec qui j'avais rendu son dossier, là. J'étais allé voir, en me disant, bon, ben voilà, mais le concurrent veut me débaucher. Mais moi, j'ai pas envie de partir. Alors, il me dit, c'est quoi? C'est un problème d'argent? Non, simplement, ils veulent me débaucher. Moi, je me plais, on va continuer ensemble, c'est tout. Voilà. Alors, je pense que, mais l'argent est un piège, hein. Faut quand même pas se leurrer. La Bible dit que c'est la racine de tous les maux, hein. Donc, c'est quand même un vrai piège. Ne nous laissons pas dicter les choses par maman. Même si la tentation est grande. Peut-être qu'il y a eu des chrétiens qui ont été tentés de dire pour payer les traites de notre église si j'avais pu gagner l'euro million. 219 millions, si j'avais joué que je les gagne. Je me demande dans quelle cas de conscience ce chrétien se sent. Est-ce que je les donne après à Dieu? Ça doit être dur, hein. J'imagine pas, vous voyez, c'est une situation que j'imagine pas. Alors, le meilleur moyen de m'en garder, c'est que je joue pas. Et à chaque semaine, je gagne ce que j'ai pas joué.
On a eu un exposé de Étienne Lermeneau dimanche dernier sur Dieu et l'argent.
Alors,
Mammon, c'est un terme que Jésus utilise pour parler de l'argent.
Absolument.
Dieu et l'argent. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je mettrai aussi en ligne le message audio. C'était un enseignement vraiment approfondi, avec beaucoup de passages bibliques aussi, différentes facettes. Mais vous pourrez compléter aussi cette réflexion-là, qui est évidemment très grande.
Il faut le dire, c'est très tentant, hein, et que parfois on est peut-être à la limite face à l'argent. Et que le basculement peut se faire. Alors, bon, ceci dit, si je fais, là encore pas de malaise. Si je me rends compte que j'ai fait une bêtise, il faut que j'arrête là. C'est tout. Hein, c'est que l'avantage pour nous chrétiens, c'est que nous restons dans cette disponibilité de pouvoir réparer. Et si nous avons fait quelque chose qui n'est pas correct envers l'argent, de savoir le restituer là où il devait être correctement placé. Mais le meilleur moyen d'être détaché par rapport au problème de l'argent, c'est de savoir d'abord donner à Dieu. Et quand j'ai appris à donner à Dieu, j'ai pris conscience, au fond, que ce que Dieu me donne, mon salaire, si j'ai un salaire, c'est une grâce. C'est pas parce que j'ai bien bossé. Bah, j'espère que j'ai bien bossé, oui. Hein. C'est comme ceux qui venaient, quand j'étais chef d'entreprise, me voir en disant, bon, dites patron, il faudrait que j'ai une augmentation parce que j'ai bien fait mon travail. J'ai dit, tu veux une augmentation parce que tu as bien fait ton travail? Mais heureusement encore que tu as bien fait ton travail. Parce que sache que si tu l'avais mal fait, tu n'aurais plus à me demander l'augmentation. Hein. Vous voyez, on est dans des discours qui sont complètement faux. Apprenons à être reconnaissants et savoir être content de tout ce que Dieu nous accorde. Le contentement.
Oui. Une question. Est-ce que vous avez réussi à, dans votre travail, avoir des occasions de témoigner du Seigneur Jésus?
Oui, monsieur.
Et voilà, c'est pour ça que je voulais savoir, autant pour les employés que des cadres, et est-ce qu'il y a aussi du fruit? Enfin, est-ce que vous avez des exemples de conversion et que vous êtes.
Oui. Je pense à. Alors, toujours d'une part à ce collaborateur dont j'ai parlé, et je lui ai dit, vous viendrez voir. Donc on a parlé de Dieu, après sans difficulté. Il est venu à la maison plusieurs fois. Bon, mais il n'a jamais pris de décision. Enfin, j'ai perdu le but. Mais j'ai une autre expérience, oui, j'avais aussi un autre collaborateur, et on voyageait souvent à l'étranger dans différentes occasions. Et un jour, mais c'est 30 ans après, je reçois un coup de téléphone, et... j'ai le gars qui s'annonce, ah non, c'est Pierre à l'appareil. Ah oui, Pierre, oui, d'accord, Pierre, bonjour. Il dit, mais tu viens pas de moi? Eh ben oui, non, mais attends. Il dit, mais tu sais, voilà, je suis Pierre Vintel, on voyageait ensemble, et quand on voyageait dans l'avion, tu me disais que tu dormais, mais moi je suis sûr que tu priais pour moi. Alors, je me suis dit, oui, ben, il prend un peu trop ce qu'il a dit. Il dit, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'il dit, je t'ai retrouvé, je t'ai vu sur les écrans pour Mission France à Billy Graham sur l'estrade, et maintenant je suis un frère en Christ. Et je suis sûr que c'est ta prière, quand on est en voyage dans l'avion, qui ont fait que je suis tourné vers le Seigneur. Alors, avec humilité, je me suis dit, bon, si je le pense, j'en suis réjoui. Dieu a sans doute mené les voies, et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés, un petit brillant, mais voilà. Et oui, c'est. Donc, mais c'est 30 ans après. Et puis, bien souvent, j'en ai retrouvé aussi, ils m'ont dit, mais oui, mon témoignage. Et je suis toujours en relation, aussi bizarre que ça paraisse, avec d'anciens ouvriers, surtout plus des ouvriers des cadres, des anciens cadres, des ouvriers, qui a un qui m'écrit tous les ans, et qui a été touché parce que j'ai à un moment de sa vie, et à mon avis, j'ai jamais su s'il était vraiment musulman ou pas, mais nous parlons de Dieu ensemble. Et je l'ai embauché à 55 ans pour finir sa carrière et lui donner un travail stable. Et c'est un Algérien, à qui on s'écrit deux fois par an. Et donc, le témoignage, je ne sais pas ce que Dieu fait avec. C'est pas mon problème. Ce que nous voulons, évidemment, c'est voir du fruit. Et ça, je peux vous dire, il y a une tendance un peu d'évangéliste, c'est quand même mieux de voir du fruit que de se dire, bah, j'ai prêché l'évangile, mais je vois rien. Hein. Mais il faut savoir que c'est Dieu. Nous, on s'aime. C'est Dieu qui fait. Et de ce côté-là, ça nous garde quand même une certaine limite. Alors, il y en a peut-être qui sont convertis. Je me souviens de... Alors, là, c'était un peu... C'est pas très à ma gloire, si vous... Tant pis, ça arrive aussi. Et j'ai eu une secrétaire qui, un jour, alors là, j'étais tout jeune converti. Elle, c'était ma secrétaire. Alors, je faisais ce qu'on me disait, il fallait prendre témoignage. Alors, je rendais témoignage. Hein. J'avais même sur ma voiture, vous avez besoin de Jésus-Christ. À l'époque, hein, c'était en 68. Hein. Donc, c'est. Alors, d'ailleurs, ce fameux président m'avait dit, c'est quoi sur ta bagnole? Bah, je lui dis, bah voilà, on a besoin de Jésus-Christ. Bon, il a dit, c'est mieux que des slogans à l'art. Mais donc, cette secrétaire, Elle rentre dans mon bureau en furie, elle me dit, monsieur, oh là, vous êtes un vrai, excusez-moi l'expression, un vrai sale. Ah! Comme ça. Je sais plus ce que j'avais dû lui dire, faire, mais enfin bon, j'étais quand même pas dramatique non plus, hein. Alors je lui dis, mais vous comprenez maintenant pourquoi j'ai besoin de Jésus-Christ, hein. Voilà. Donc, je crois qu'il faut accepter ses limites. On cherche pas à offrir une vitrine, soyons vrais. Les gens du monde ne s'y trompent pas. Ils ne s'y trompent pas. Vous savez, avant que vous, j'ai cité le cas de cette année, le directeur de la chaire, avant que vous rentriez dans une entreprise, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes. Les gens le savent.
Moi, je voulais juste voir si les occasions. Sans français, je dirais. Des occasions, tout ça, de.
Oui, mais voilà. Alors, un principe que je m'étais donné, quand même, c'est que. Je ne suis pas au travail, même en tant que patron, pour faire du prosélytisme et de l'évangélisme. Et je. Vous savez, j'ai même embauché, on m'a posé la question, est-ce que vous embauchez des chrétiens? J'ai dit, j'ai embauché des chrétiens. Et j'ai mis à la porte des chrétiens. Parce que je me suis aperçu qu'ils connaissaient leurs privilèges de frères et ils oubliaient leurs devoirs d'employés. Et ça, c'est dramatique. Et quand j'ai eu les collaborateurs qui disaient, oh, tu fais quoi là? Tu vas le laisser faire? Non, je ne peux pas. Pas. Donc j'ai jamais, si l'occasion se présente, oui, mais j'ai toujours estimé que si je témoignais en faisant une certaine forme pendant les heures de travail, ça peut vous, je peux le faire, ça se présente. Mais il fallait que je permette à quelqu'un d'autre, qui soit musulman, catholique ou bouddhiste, de faire son prosélytisme aussi. Sinon, quel est ma justice par rapport aux autres? Et quelle est la liberté? Je m'accorderai de la liberté que je me permettrai pour eux. C'est pas juste. C'est pas juste. Donc, c'est parfois des contraintes. Si ça se présente, on le fait. Si ça se présente, il n'y a pas de problème, hein. Mais, si ça se présente pas, moi je dis, on ne force pas. C'est pas le lieu pour ça. C'est un lieu de témoignage. On le vit en faisant déjà bien son travail. Et en sachant être humble quand on le fait mal. Ça parle très fort, je peux vous dire. Ça parle très fort. Je peux encore vous citer une petite anecdote. Hein. Un jour, j'ai un dîner, je vais voir des gens pour négocier une affaire importante. Et ça dure longtemps, l'affaire est vraiment importante. Et le président me dit, écoutez, là, l'heure est avancée, je vais appeler plusieurs de mes collaborateurs et on va aller déjeuner ensemble. Bon, des jeunes. Et puis, au cours du repas, le gars me dit, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai invité à déjeuner? Ah, je dis, c'est pour continuer la conversation, pour notre affaire. Il dit, non. Il dit, je me suis dit, ce gars-là que j'ai en face de moi, il est en train de diriger ses affaires d'une manière que je ne comprends pas, et je veux savoir ce qu'il y a derrière. Et il avait invité ses collaborateurs, ses directeurs pour ça. Donc, 5 autour de la table, je crois, 6. Et nous avons pas. Et à ce moment-là, je me dis, voilà, comment je vais les affaires. Et ça a duré. J'ai pas eu d'affaires, pour autant. Mais il m'a dit, écoutez, chaque fois que vous passez dans le quartier, vous m'appelez, et j'aurai toujours plaisir de discuter avec vous. Voilà. Mais bon, du coup, on s'est jamais revu pour d'autres raisons. Mais je crois qu'il faut être. On est ce qu'on est. Voilà. Et puis, acceptons. Voilà.
Excuse-moi, une dernière question. Est-ce que dans tes entreprises, il y a eu de temps en temps des moments où tous les matins, il y a eu des salariés qui se levaient pour prier avant que la journée commence? Ça se fait beaucoup en Amérique, peut-être pas trop en France.
Oui, mais en Amérique, c'est pas la même législation qu'en France. Hein. Je sais pas si tu sais.
C'est
la laïcité.
Plus souvent en France, oui.
Alors, je sais pas si ce serait bien. Non, mais, alors, oui, ce serait bien. Mais si, dans l'entreprise, ensuite, un musulman vient me dire, écoute, vous vous réunissez pour prier le matin, nous on a les 5 moments de prière dans la journée, donc je voudrais avoir aussi un lieu pour pouvoir faire ces 5 moments de prière, il m'a interrompu mon travail pour ça. Je fais quoi? C'est pas gérable. J'ai travaillé beaucoup pour faire des installations dans les pays musulmans, c'était un casse-tête. Quand on faisait des installations, il fallait mettre des automatismes pour arrêter les installations, veiller à ce qu'elles se mettent en stand-by pendant les moments de prière. Quoi. Ça pose quand même quelques difficultés. Hein. Voilà. Alors, s'ils veulent se réunir en dehors de l'entreprise pour prier, très bien, ils fassent. Mais qu'ils ne me demandent pas de leur donner un lieu pour ça. Je ne le ferai jamais. Ça, c'est clair. Donc, le fond, hein, ils ont la liberté. Moi, je le ferai. Voilà, oui, ça y est, on a fini, hein.
Merci.